Vous écoutez, on lit pour vous.
Haïti, appel à l'engagement citoyen pour rebâtir le pays, un texte d'Annick Chalifour, paru le 4 novembre 2024 dans l'Express. On parle de plus en plus de la crise qui déstabilise Haïti, notamment l'insécurité qui assiège la zone métropolitaine de Port-au-Prince et la région de l'Artibonite, et les violences de toutes sortes que subit la population haïtienne. Mais tournons aussi le projecteur sur l'espoir que nourrissent certaines initiatives à l'échelle du pays, comme par exemple celle de Valu, dans les montagnes de Petit-Goave, à l'ouest de la capitale, où les paysans visionnaires cernent les stratégies visant le développement durable de leur communauté et leur pays. Valu, terre de montagne. Valu est le patronyme d'un ancien propriétaire terrien, Jean-Jacques Valu, qui y a vécu jusqu'au début des années 1800. C'est une zone de montagne à plus de 95 %. Elle a une altitude allant de 650 à 1100 mètres, une température relativement douce, moyenne annuelle de 22 degrés Celsius. Les habitants de Valu s'appellent Valois et Valoises. La population est estimée à 1400 habitants environ, 2010. Elle est accessible par une route carrossable construite par l'Association des paysans de Valu, fondée le 3 janvier 1987, qui débouche à l'intérieur de la communauté à partir de la route nationale numéro 2 à Morne-Tapion. D'autres institutions locales existent à Valu. La toute dernière étant la société Lacou-Dessalines, créée le 2 mai 2024, ayant réalisé à Mont-Jalousie 1030 mètres d'altitude, durant ce mois d'octobre, son premier grand événement annuel dénommé Dessalines le Grand. S'engager envers la paix. C'est dans ce contexte que trois valeureux Valois ont récemment fondé la société Lacou-Dessalines, inspirée par l'esprit de Jean-Jacques Dessalines, père de l'indépendance d'Haïti. La société Lacou-Dessalines se veut une initiative d'engagement citoyen guidée par la vision d'une Haïti souveraine, prospère et verte, rappelle le sociologue et environnementaliste cofondateur Abner Septembre. Il s'agit de promouvoir une culture et une pédagogie de la paix, s'appuyant sur la responsabilisation et le bien-être économique du citoyen, contribuant à faire d'Haïti une grande nation stable et prospère. Révéler l'espoir et le changement. Ainsi, dans le but de lancer la concrétisation du leadership citoyen envers la construction de la paix, la société Lacou-Dessalines a organisé l'événement Dessalines le Grand du 8 au 21 octobre dernier sur le mont Jalousie à Valu. Le mont Jalousie fut la montagne choisie par Jean-Jacques Dessalines pour révéler son message d'unité nationale et de nouvelle liberté, là où il est passé le 2 mai 1800, cite Abner Septembre. Or, le matin de ce 21 octobre, la conjonction de ces signes qui ne trompent pas, le soleil, le vent, les nuages, la pluie, l'arc-en-ciel, nous a renvoyé au message d'amour, de paix, d'unité nationale, d'espoir et de changement de Dessalines. En Haïti, la manifestation de l'arc-en-ciel signifie la présence divine, ce qui fait désormais de Mont-Jalousie un haut lieu de pèlerinage pour toute personne en quête de recueillement, d'inspiration et, surtout, de communion avec l'héritage de Dessalines, une icône de la liberté, déclare Abner Septembre. valoriser l'héritage. L'événement visait à présenter le concept Dessalines pour la refondation de notre nation dessalienne, explique le sociologue. Une société alternative, caractérisée par le souci du commun et de l'autre, à travers une dynamique d'expression, de responsabilisation, de participation, de protection et de conservation, permettant de bâtir un nouvel État souverain, capable de nourrir et de protéger sa population, de protéger son drapeau, sa monnaie, sa langue, sa culture, son identité, son territoire et son environnement, de faire un usage responsable, intelligent et pragmatique de ses compétences et de ses différentes ressources pour créer des richesses, tirer pleinement parti de l'économie mondiale et de prendre dignement sa place dans le concert des nations. S'approprier son destin. Dessalines le Grand avait une portée sociologique, historique, culturelle, spirituelle, symbolique, mythique, écologique, économique, politique et psychologique. Des dimensions fondamentales qui nous disent que nous sommes à un point de bascule, qu'il est temps que nous brisions, selon Abner Septembre. Par ce lancement, la société Lacou-Dessalines a fait le premier pas, notamment envers les jeunes, en les encourageant à prendre place à bord pour jouer activement leur rôle comme artisans, gardiens et bénéficiaires de leur pays. Plus largement encore, envers tous les citoyens haïtiens de toute catégorie socio-économique, de toute tendance idéologique, de toute appartenance confessionnelle, de tout milieu géographique. Et aussi pour tous citoyens du monde qui veulent rejoindre la société Lacou-Dessalines en vue de l'aider à faire atterrir, mettre en œuvre et concrétiser avec succès cette nouvelle Haïti. La société Lacou-Dessalines, SLD, fait donc appel à la participation citoyenne et encourage tout particulièrement le mécénat, le volontariat et le bénévolat. Pour joindre la SLD, téléphone 509 39 90 98 98 ou courriel Société Lacou-Dessalines @gmail.com. C'était Haïti appelle à l'engagement citoyen pour rebâtir le pays, un texte d'Annick Chalifour, paru le 4 novembre 2024 dans L'Express.
L'impact du sel sur les routes. Un texte de Mathieu Perrault, paru le 24 novembre 2024 dans La Presse. Un lecteur, Jean-Jacques Roussel, a demandé « Est-ce que les sels de déglaçage ont un impact sur les routes? » Oui, mais jusqu'à présent, la recherche n'a pas permis de résoudre ce problème. Les routes sont endommagées par la neige qui fond avec les sels déglaçants, puis regèle, explique Alan Carter, ingénieur civil à l'École de technologie supérieure. Avec les routes en béton, il y a aussi le problème de corrosion de l'armature en métal. La corrosion du métal génère de la rouille qui est plus volumineuse que l'armature de métal de départ. Cela fait craquer la route. Le même phénomène survient quand des poches d'eau se forment dans les petits interstices de l'asphalte ou du béton, puis gèlent parce que la glace est plus volumineuse que l'eau. Des tests ont notamment été réalisés pour réduire l'impact environnemental négatif des déglaçants. Des fondants moins corrosifs, comme du jus de betterave, ont été mis à l'épreuve. Ils se sont révélés moins efficaces, selon M. Carter. À l'Université Western, en Ontario, la chercheuse Yolanda Hedberg a testé la corrosion des armatures de métal du béton causée par 9 fondants, allant du sel de roche au jus de betterave, en passant par des produits chimiques moins dommageables pour l'environnement. Curieusement, le sel de roche a été moins corrosif pour l'armature, affirme-t-elle. La saumure qu'il crée avec l'eau pénètre moins dans le béton pour une raison qu'on ignore. Il y a donc moins de sel qui arrive à l'armature de métal. Une solution consiste à recouvrir la route de béton d'un revêtement imperméable, mais cela doit être fait régulièrement, ce qui augmente les coûts d'entretien, explique Mme Edberg. Pourrait-on former des armatures de métal résistantes à la corrosion? On pourrait avoir de l'acier inoxydable, mais ça serait beaucoup plus cher, répond-elle. La comparaison scandinave. La quantité de sel utilisée au Canada, beaucoup plus importante que celle utilisée dans d'autres pays, pose problème. En Scandinavie, il y a un enlèvement mécanique de la neige avant tout épandage de déglaçant, souligne Mme Edberg. Ça fait qu'on a moins besoin d'en mettre. Au Canada, quand il neige peu, on met des déglaçants avant d'enlever la neige. C'est peut-être attribuable au fait qu'il y a beaucoup plus de kilomètres de route par habitant ici qu'en Scandinavie, ce qui rend nécessaire une limitation des coûts du déneigement. Épandre un déglaçant coûte moins cher que de déblayer la neige, dit la chercheuse Yolanda Edberg. Un problème moins grave, mais bien visible, est l'interaction chimique entre les déglaçants et la surface de béton ou d'asphalte. Ça crée des fissures qui sont visibles au printemps, indique Mme Edberg. Une autre avenue pour diminuer l'utilisation de déglaçants serait d'incorporer des capsules de déglaçant dans l'asphalte ou alors de les pulvériser à partir de petites buses situées le long des autoroutes, note M. Carter. En savoir plus, source Vérificateur général, 775 000 tonnes, quantité de sel de déglaçage épandue sur les routes provinciales chaque hiver au Québec. C'était L'impact du sel sur les routes, un texte de Mathieu Perrault, paru le 24 novembre 2024 dans La Presse.
La ferme aux milliers d'arbres. Un texte de Fanny Arcan, paru le 25 novembre 2024 dans La Presse. Depuis qu'il a hérité de la ferme familiale, il y a 50 ans, Bob Dobson y a planté pas moins de 40 000 arbres. Depuis, un vent de fraîcheur souffle sur le terrain reverdi que la faune s'est peu à peu réapproprié. J'ai appris la valeur des arbres à l'âge de 6 ans, raconte Bob Dobson, propriétaire de cinquième génération de la ferme Dobson, où il élève du bœuf nourri à l'herbe à Cobden, en Ontario. Enfant, le petit Bob avait la responsabilité d'aller chercher les vaches à l'autre bout du terrain pour la traite quotidienne. Je passais par le même chemin, bordé d'arbres, tous les jours. Et je me rappelle à quel point l'ombrage faisait du bien, poursuit l'homme de 80 ans. Mais dans les années suivantes, le père du fermier a fait raser les arbres du terrain pour maximiser sa productivité, comme le recommandait le ministère de l'Agriculture de l'époque. « Mon père essayait d'être aussi moderne qu'il le pouvait », explique-t-il. Quand Bob Dobson a hérité de l'entreprise, en 1972, il s'est donné comme mission de lui redonner le couvert d'arbres qu'il avait connu dans sa jeunesse. Une fois que j'ai commencé, je n'ai pas arrêté. Et 40 000 arbres plus tard, nous voici, lance-t-il en souriant. Autrefois dégarni, le terrain a aujourd'hui retrouvé ses nuances de vert. Et les arbres ont apporté avec eux plus d'un bénéfice, souligne Bob Dobson. Autour des années 1970, on avait des problèmes avec la qualité et la quantité de l'eau. On en manquait. Plus maintenant. Se réjouit-il en nous faisant visiter les lieux au volant de sa camionnette. Quand il a repris la ferme, Bob Dobson a entrepris de planter des rangées d'arbres de 5 mètres de large, le long du ruisseau qui court à travers le terrain. Les racines de ces arbres créent une sorte d'éponge, dit-il. Elles retiennent l'eau lorsqu'on a de grandes quantités de pluie. Bob Dobson a également conçu un système d'irrigation propulsé par l'énergie solaire qui apporte l'eau au bétail sans que les bêtes s'abreuvent à même le ruisseau. L'eau est donc pure aujourd'hui. On pourrait la boire sans problème, affirme-t-il, en montrant d'une main sa réalisation. Les bienfaits des arbres sur les cours d'eau sont très vastes, soutient David Rivet, professeur d'agroforesterie à l'Université du Québec en Outaouais. Avec l'ombrage que procure leur feuillage, ils rafraîchissent les cours d'eau. Ils sont bons pour la biodiversité aquatique et pour la biodiversité terrestre, soutient M. Rivet. Pensons juste aux amphibiens, qui adorent s'installer dans les bandes riveraines. Équilibre naturel. Petit à petit, Bob Dobson a planté rangée après rangée d'arbres dans la direction contraire au vent, aux abords de sa ferme. La barrière de feuillage crée ainsi un bouclier contre les bourrasques, une technique qui permet notamment de prévenir l'érosion des sols, selon David Rivet. Freiner les vents peut aussi permettre aux insectes pollinisateurs de mieux se déplacer, et les arbres peuvent créer des abris, des refuges, des lieux de reproduction pour la faune. Depuis que les arbres sont revenus chez Bob Dobson, des dizaines d'espèces d'oiseaux, comme le faucon, la dinde sauvage et la pie grèche, ont trouvé refuge à la ferme où ils se nourrissent des canneberges et du sureau planté par le fermier. On leur offre des arbres où se faire un nid et se percher, de l'eau, de la protection et de la nourriture. C'est un peu comme un tout-inclus pour eux, dit-il en rigolant. Après des décennies à exploiter sa petite ferme, l'octogénaire a laissé le soin des vaches à sa partenaire d'affaires, Eva Atiarova. Mais le fermier n'est pas là de planter des arbres sur son terrain. Je suis assez fier de ce qu'on a fait. Ce que j'espère surtout, c'est que ça aura un peu d'influence sur d'autres fermiers, d'autres agriculteurs. C'était la ferme aux milliers d'arbres. Un texte de Fanny Arcan, paru le 25 novembre 2024 dans La Presse.
Une bande dessinée qui fait un retour vers les futurs. Un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 21 novembre 2024 dans Le Devoir. L'ouverture du nouvel album de bande dessinée documentaire Ressources. Un défi pour l'humanité se fait par le rappel imagé d'une conférence donnée en 2019 par le méga milliardaire Jeff Bezos. Le fondateur d'Amazon, un des deux ou trois humains les plus riches du monde, présente son projet de créer le module interstellaire Blue Origin et ce qu'il envisage comme avenir radieux pour l'humanité. Les ressources viendront à manquer sur la Terre? Et alors, réplique-t-il, les humains n'auront qu'à se déplacer dans le système solaire pour accéder à une abondance illimitée. Voulons-nous la stase et le rationnement, ou bien le dynamisme et la croissance? Demande le phylactère de l'avatar dessiné du célèbre chauve. La suite analytique explique que cette utopie reprend les rêveries technophiles de Gerard K. O'Neill, ancien professeur de physique de Jeff Bezos à l'Université Princeton, qui fantasmait déjà dans les années 1960 sur d'immenses structures spatiales habitables. On peut le critiquer et s'étonner de cet entrepreneur qui nous montre à son tour des stations orbitales de plusieurs kilomètres de diamètre, indique en entrevue l'ingénieur Philippe Biwix, co-signataire avec le dessinateur Vincent Périotte de la BD Ressources, publiée en novembre 2024 chez Casterman. Jeff Bezos propose en fait un récit assez courant nous disant que dans 100 ans, dans 1000 ans, en tout cas de façon inéluctable, on va finir par arriver à vivre en vrai la science-fiction. Dans les faits, ça semble beaucoup plus compliqué. Le bédéiste Vincent Périot a inventé ses propres mondes du futur avec la saga Négaliod. M. Biwix dirige une agence de conception pluridisciplinaire, AREP, qui s'occupe entre autres de la transformation des gares et des centres de maintenance des trains en France. Il a publié plusieurs essais sur des questions environnementales dont Le bonheur était pour demain, les rêveries d'un ingénieur solitaire en 2019 et l'âge des low-tech vers une civilisation techniquement soutenable en 2014. Leur collaboration donne donc cette nouvelle bande dessinée documentaire un genre en très forte progression. Cette fois, la présentation pédagogique se fait par l'intermédiaire des échanges entre l'ingénieur et le dessinateur. Leur première rencontre est même reproduite à la page 15. Le jeune bédéiste se croque sur un trottoir à Bordeaux en septembre 2020 en train de se présenter à l'ingénieur dont il admire les essais. Le dialogue entre les deux compères se poursuit pendant quelques 175 pages sous une forme classique. L'élève questionne le maître, qui lui explique les différentes manières d'envisager le progrès techno-scientifique et ses conséquences sur le monde réel. La maïeutique se fait en empruntant différents vaisseaux pour traverser à la vitesse de la lumière les âges de la Terre passée, présent et futur, par la magie des dessins. Cette bande dessinée, c'est vraiment un mix entre toutes les pensées qui m'ont permis de me construire, explique l'essayiste. L'angle concentré sur les ressources non renouvelables permet de synthétiser autrement les défis de l'humanité, là où d'autres cassandres se concentrent sur l'énergie, le climat, l'intelligence artificielle ou la biodiversité. Notre album rappelle la non-soutenabilité de notre monde, de notre civilisation industrielle. Nous exposons les limites de l'extraction, mais aussi du recyclage et de la perte inéluctable des ressources essentielles qui en découlent. On vient ouvrir des pistes sur la transformation technologique qui serait nécessaire dans nos manières de concevoir, de produire, d'utiliser les objets, mais aussi les nécessaires transformations économiques, sociales, culturelles qu'impliquerait cette mutation pour faire durer les objets et donc les ressources. Trois fois passera. Le duo improbable jongle avec les grandes utopies. La synthèse propose au total trois grandes options. Une option optimiste, une pessimiste et une, disons, modérée. La première concentre les idées du cornucopisme, en référence à la corne d'abondance de la mythologie. Cette perspective optimiste, souvent jovialiste, mise sur la capacité du génie humain à résoudre tous les problèmes, y compris la rareté des ressources. Le premier chapitre sur le sujet passe du Moyen Âge au futur, en évoquant au passage l'utopie de Thomas More, les rêves d'immortalité de Condorcet, l'industrialisme de Gina Lombroso et la technophilie délirante de Jeff Bezos ou d'Elon Musk. Ce dernier joue maintenant l'éminence grise auprès du président américain désigné. Est-ce à dire que les cornucopistes s'installent encore plus au pouvoir? Je ne suis pas sûr que l'optimisme technologique soit plus particulièrement américain, répond M. Biwix. Nous sommes un peu pareils en Europe. Le président Macron répète tout le temps que nous allons résoudre nos problèmes par des solutions techniques. Nous sommes tous un peu fascinés par la technologie, comme des lapins pris dans la lumière des phares. On baigne tous un peu dans le discours voulant qu'on repousse la mort et qu'on vivra bientôt sur Mars. La deuxième perspective exposée enténèbre le futur et avertit que l'humanité court à sa perte avec le capitalisme débridé, la surconsommation et l'hyperexploitation des ressources naturelles ou humaines. Les leçons portent sur les effets des choix les plus courants, les plus massifiés. Elles rappellent, par exemple, que l'économie du numérique n'est pas vraiment immatérielle puisqu'elle repose, elle aussi, sur l'exploitation de métaux rares, la consommation d'énergie et le rejet de déchets irrécupérés. La sobriété a bien meilleur goût. Beaucoup de planches explicatives forcent l'admiration. Une case place les héros aux commandes de giga-machines fouillant les entrailles de Gaïa. Un plan de découpe montre la zone supérieure de la croûte terrestre, puis une série de dessins y collectent les minéraux disponibles. On voit ensuite le duo chevauchant une abeille et une libellule vers un téléphone portable décortiqué pour en exposer les composantes aux 45 métaux, certains rares et précieux. Il y a plein de rapports très officiels qui essaient de comprendre si on aura assez de lithium, de cobalt, de nickel ou de je ne sais quoi pour les voitures électriques d'ici 2040 ou 2050, dit M. Biwix. Nous, on a eu envie de s'extraire de cette courte vue pour se projeter sur le long terme. Nous nous projetons plus loin pour finalement nous demander si, en fabriquant un smartphone maintenant, on ne nuit pas à la possibilité de construire un équipement chirurgical dans un siècle. La troisième voie explorée propose finalement le modèle d'une civilisation techniquement soutenable. L'album dit qu'un autre avenir est possible, où les ressources seraient consommées modérément tout en n'abandonnant pas les merveilles technologiques qui facilitent la vie courante. Personne ne veut revenir au monde des dentistes des années 1970, dit Philippe Biwix. Mais bon, moi j'ai survécu sans écran plat. J'ai connu un monde où on se donnait rendez-vous sans téléphone portable. Je ne dis pas que ce sont les premiers objets à interdire, je dis qu'on peut faire les choses différemment. Sa position tout en sobriété modère les ardeurs productivistes destructrices des ressources limitées, quoi qu'en pense Jeff Bezos. Ce qui me rend optimiste, c'est que l'être humain est très adaptable. Nous nous sommes adaptés au confort du consumérisme, mais finalement, ça ne nous a pas forcément rendus plus heureux. Les Qataris consomment plus que les Danois, mais il semble que les Danois soient plus heureux. C'était une bande dessinée qui fait un retour vers les futurs, un texte de Stéphane Baillargeon, paru le 21 novembre 2024 dans Le Devoir.